Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Fun for You. Comme chaque semaine, on se retrouve sur le site de Fun Radio, funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast. Pour ce qui est déjà, le 16e épisode du podcast Fun for You avec, comme chaque semaine, un expert ou un invité qui est avec moi en studio. Et aujourd'hui, j'ai un invité. Il s'appelle Arnaud de Decker. Salut Arnaud.
Salut.
Comment ça va?
Ça va, ça va.
Tu viens nous parler de ton livre Invincible et qui est sorti aux éditions Kenes. Un livre qui raconte la résilience d'un peuple qui refuse de plier, dans lequel tu donnes voix à celles et ceux qui continuent de vivre, d'aimer et d'espérer au cœur de la guerre. Alors toi, tu es journaliste indépendant, spécialisé dans la couverture de conflits. Tu as travaillé pour de nombreux médias, LCI, La Libre, la RTS. Tu as même été le correspondant en Ukraine pour l'émission Quotidien qui est diffusée sur TMC. Alors on va reparler du coup de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, un conflit qui remonte à 2014 mais qui a pris un tournant majeur le 24 février 2022 avec le lancement de cette fameuse opération militaire spéciale par la Russie sur le territoire ukrainien. Comment a réagi la population qui du jour au lendemain a vu sa vie complètement chamboulée?
Oui, alors moi j'étais sur place déjà un mois plus ou moins avant le début de la guerre. En tant que jeune reporter, j'avais 26 ans à l'époque et je suis parti sac à dos Bruxelles-Kiev. Il y avait encore des vols à ce moment-là. Ryanair, 50 euros. Et donc, je me suis dit, bon, dans les médias, comme je suis reporter indépendant, donc je me suis dit, je vais aller sur place, je vais un petit peu parler aux gens, un petit peu m'informer pour me faire ma propre idée, ma propre opinion, etc. Un peu découvrir la capitale aussi. Et donc, je suis arrivé début février, trois semaines avant la guerre. Et puis, je parlais à des gens, je commençais à écrire mes premiers papiers pour la presse belge. Et je pense que c'était aux alentours de 20-21 février, donc encore avant la guerre. J'avais réalisé mon dernier papier et j'avais interviewé un homme à qui j'ai posé exactement cette question-là. J'ai demandé, est-ce que vous voyez vous battre dans les rues de Kiev, qui à ce moment-là n'était pas en guerre?
Ouais, ouais.
Alors on avait
la guerre.
Il y
avait une tension qui commençait à arriver.
Exactement.
Quand même.
Et donc on avait la guerre dans le Donbass, la Crimée était annexée, etc. Mais il faut savoir que Kiev, c'est environ à 800 km du Donbass, donc c'est très loin. Donc même à Kiev, les gens disaient, ben non. Est-ce que tu nous vois avec des armes dans les rues, etc. C'est pas possible. Et puis, trois ou quatre jours plus tard, le 24 février, 5h du matin, les premières sirènes aériennes, anti-aériennes, commencent à retentir dans la capitale. Et on s'est tous fait réveiller à 5h du matin, ce 24 février, avec des bombardements, avec des avions de chasse, avec des hélicoptères. Et je suis sorti dans la rue et c'était le chaos total. Donc, t'avais les femmes et les enfants qui tentaient de fuir en voiture, en train, en bus. Ceux qui ne voulaient pas fuir allaient dans les métros pour se réfugier, ouais. Passer des nuits dans les métros. Et les hommes, il y avait des agents du gouvernement qui posaient des caisses avec des kalachnikovs sur le trottoir. Et les hommes étaient invités à se servir et à aller défendre la capitale. Et c'était vraiment donc des civils qui, du jour au lendemain, sont devenus soldats. Et toute la société a basculé et s'est retrouvée dans une zone, situation de guerre. Du jour au lendemain. Et avoir vu cette métamorphose, c'était quand même très... C'était un choc émotionnel. Donc, ouais. Donc pour toute la société, pour moi, pour tous ceux qui étaient proches ou de loin impliqués en Ukraine, et toute la société a changé, vous voyez, du jour au lendemain, et depuis, c'est plus jamais devenu ce que c'était avant, quoi. C'est alors, vraiment une société qui a évolué, qui s'est transformée en société de guerre totale.
Dans ce livre, tu as donné la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Qui sont finalement tous ces gens ?
C'est en première place les civils qui sont devenus soldats au front. Alors il y a plus ou moins 1 million de soldats ukrainiens, un petit peu moins je pense, 900 000, 1 million. Et ces gens-là, on les entend presque jamais. En fait, quand on parle de l'Ukraine, on parle de Zelensky, on parle de corruption, on parle du président Trump, on parle de Poutine, de négociations, etc. Mais on parle jamais des civils, des soldats qui sont sur le front, qui subissent au final cette guerre. Moi, j'ai habité pendant plusieurs mois dans le Donbass, j'ai habité pendant 4 mois à Kharkiv, proche de la frontière russe. Et ce que je vois là, c'est un peuple, c'est des civils qui n'ont pas le choix que de continuer à vivre. Et en fait, au début, il y en a énormément qui sont fuis, qui sont devenus réfugiés, notamment en Belgique, en France, en Allemagne. Et ce qu'on voit maintenant, par exemple, si on prend la ville de Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays. Avant la guerre, on était à 2 millions d'habitants, donc c'est une très grande ville. 6 mois plus tard, on est passé de 2 millions à 200 000, ah 10% ouais. de la ville. Et donc, c'était vraiment, moi, je suis arrivé là quand il n'y avait plus personne dans les rues, il y avait un couvre-feu, il n'y avait plus d'éclairage public, plus de GPS. C'était vraiment une ville assiégée. Maintenant, la guerre est toujours là. Le danger est toujours présent pour la ville de Kharkiv, mais on est de nouveau à plus d'un million d'habitants. Ce qui veut bien dire que les gens veulent retourner chez eux. Les gens veulent reprendre le cours de leur vie malgré la guerre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. J'ai vu petit à petit dans cette ville de nouveau vivre. Donc, les cafés ont réouvert. L'opéra est de nouveau ouvert, mais sous sol. Les écoles sont ouvertes de nouveau, les écoles primaires, maternelles, mais ils vont à l'école dans des bunkers, dans les stations métro. Et donc, c'est vraiment une volonté de cette société de s'adapter, de continuer à vivre, malgré la guerre qui continue de faire rage. Rien que cette semaine, dans cette ville de Kharkiv, il y a eu des dizaines de morts, des centaines de blessés par des bombardements, des drones qui sont envoyés. Et donc, la guerre continue de faire rage, mais malgré ça, il y a quand même une résilience du peuple qui est assez incroyable et assez inspirante. Pour côtoyer ça depuis 4 ans, ça force quand même de l'admiration pour ce peuple qui refuse de se laisser abattre, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des images de la ligne de front, etc. Mais finalement, la vie continue dans toutes ces villes, tu le disais. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus en Europe, par exemple, qui ont fui la guerre. Il y a beaucoup de gens ici en Europe qui ne comprennent pas pourquoi ces personnes veulent retourner chez eux, dans leur pays, parce qu'on se dit ils vont un peu au casse-pipe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces gens, finalement, qui ont un peu du mal, qui sont un peu dans l'incompréhension par rapport à tout ça?
En Ukraine, ça a été très clair. Donc le chaos au début, la peur, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et donc forcément, le premier réflexe humain, c'est de quitter sa maison, c'est de quitter son pays. Mais alors on devient réfugié. Et alors en fait, surtout dans le plat pays ukrainien, toutes les zones un peu rurales, les gens sont assez pauvres. Les personnes âgées ont une pension de 300 euros par mois. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont assez pauvres en termes d'argent, mais ils sont très riches en termes de terrain, en termes d'habitation. Ils ont leur maison, ils ont souvent leur potager. Et ça, c'est toute leur vie.
Ouais.
Et donc, si on leur enlève ça, ils n'ont pas d'argent. Et donc, non seulement ils n'ont pas d'argent dans leur propre pays, mais en plus, s'ils doivent aller dans un autre pays où ils ne parlent pas la langue, où alors là, ils sont complètement désorientés. Et alors, forcément, si, même s'il y a une petite possibilité de retourner chez eux, où ils sont très riches, en terrain, en habitation, en potager, etc. Eh ben alors ils choisissent de retourner chez eux et alors la part de risque, le danger, ils le prennent avec. C'est le prix à payer pour être chez soi.
Parmi toutes les personnes que tu as rencontrées, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué?
Il y en a plein. Il y en a énormément. Il y a plusieurs séquences qui m'ont marqué. Par exemple, cette fois où j'étais dans le sud du pays, à Kherson. Kherson qui est une ville coupé en deux par le fleuve, le Dniepr.
Ouais.
D'un côté, il y a les Russes, de l'autre côté, il y a les Ukrainiens. Et ils se bombardent continuellement, et les Russes utilisent aussi des drones pour chasser sur les civils, etc. Donc, ville très dangereuse. Malgré ça, il y a encore des dizaines de milliers d'habitants. Et un jour, j'ai été invité dans cette ville par une dame qui organise des cours de yoga. Et je me disais, bon, ça peut être intéressant. Et donc, je me retrouve dans un bâtiment, dans un studio de yoga. Et ça s'appelle Flying Yoga, je ne sais pas si les gens connaissent, mais on est suspendu avec un drap et on fait du yoga pendant une heure comme ça.
Okay.
Et je me rappelle que je rentre dans ce local et pendant qu'on fait l'introduction, etc., il y avait des bombardements. Donc les vitres, les fenêtres tremblaient par les bombardements qui étaient juste à côté. Et la monitrice, la prof de yoga, éteint les lumières, allume des bougies, augmente la radio et dit... Bon, Arnaud, maintenant, et une dizaine de femmes suspendues en train de faire du flying yoga, dit, maintenant, on oublie le monde extérieur, on se focalise sur nous et on fait une heure de yoga. Et ça a marché. Donc, pendant une heure, malgré les vitres qui tremblaient, les bombardements, on ne les entendait plus parce que la musique était plus forte. Et donc, pendant une heure, on fait ce yoga. Je sors de la salle très décontractée, je regarde mon téléphone et je vois qu'à deux pâtés de bloc, il y a eu des bombardements et il y avait... notamment un civil, un monsieur qui se promenait, qui a été tué, son chien était tué également. Et donc, je passe du yoga à deux rues plus loin, un bombardement avec des morts. Et ça, c'est quand même une situation surréelle. Et ça, c'est la réalité pour énormément de villes le long de cette ligne de front. Cette ligne de front, elle mesure 1000 kilomètres. Donc, il y a énormément de villes qui sont tout proches, où, comme je viens de décrire cette situation avec le yoga... Ben, ça se passe dans tous les côtés dans tous les aspects de la société. Donc, quand on va au café, c'est la même chose. Le café est ouvert, mais on prend le risque de, il y a toujours un danger qui plane au-dessus. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est, qui est dangereuse et ce qui fait aussi que la société, les Ukrainiens ne peuvent jamais planifier. À chaque fois, ils disent ben, on verra bien demain parce qu'on ne sait jamais si demain il y aura un nouveau bombardement, si demain il y aura un drone qui va exploser sur le building à côté, si mes voisins seront impactés ou pas, si j'aurai de l'électricité ou pas, parce que ça c'est aussi un sujet. Et donc c'est vraiment une société qui a appris à vivre au jour le jour. Oui.
Alors toi, t'as l'habitude d'aller où les caméras ne vont plus. T'as jamais eu peur ?
Si. Peur, c'est peut-être pas le bon mot. Mais c'est comme avec tout, l'humain est capable de s'adapter au meilleur, mais s'adapter au pire également. Et donc, quand on passe quelques jours, quelques semaines, quelques mois dans le Donbass, par exemple, ou proche de la ligne de front, on s'habitue relativement rapidement. Et donc, au début, c'est vrai que il faut quelques heures, quelques jours pour s'adapter. Mais une fois qu'on est habitué, le stress et la peur laissent place au quotidien et ça devient notre quotidien. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des situations, comme j'ai travaillé très souvent avec des militaires sur la ligne de front, c'est des bombardements, maintenant en plus avec les drones kamikazes, les drones FPV, c'est terrifiant. Maintenant, je ne sais plus jamais entendre, à chaque fois que j'entends un drone, c'est directement lié aux zones de combat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... Les drones, c'est terrifiant. Au début, c'était l'artillerie, mais l'artillerie... J'ai toujours l'artillerie, c'est aveugle dans le sens où c'est un obus qui peut tomber et il y a une grosse partie, un facteur chance. Et souvent, les chances pour qu'un obus te touche directement sont relativement faibles. Ça, c'était au début de la guerre. Maintenant, dans une zone très large autour de la ligne de front, jusqu'à 20-25 kilomètres, si un drone te voit, en fait, c'est un Russe qui est en train de piloter le drone. Ouais. Et une fois qu'il t'a vu, c'est terminé. Tu ne sais plus échapper et il va te poursuivre. Et ça, c'est terrifiant. Et récemment, il y a encore des journalistes qui ont été touchés. Anthony Lalican, un photographe français, est mort justement par un drone, comme je viens de décrire, en octobre. Même pas proche de la ligne de front, c'était à 25 kilomètres. Ce qui, en termes de front, est relativement loin. Donc ça, c'est cet aspect drone est terrifiant. Mais sinon, on s'adapte très rapidement. Et le fait qu'on s'adapte très rapidement... C'est la seule explication qu'on peut donner à tous ces Ukrainiens qui continuent à vivre proche du danger. C'est que malheureusement, ils sont déjà habitués. Un obus qui éclate ou un drone qui éclate dans leur rue, ça ne les impressionne même plus. Et ça, c'est malheureux en fait. Et c'est ça aussi que beaucoup d'Ukrainiens, en fait, ça c'est la tragédie de cette guerre, c'est que 40 millions d'Ukrainiens ont été forcés à s'adapter à une situation de guerre. Et ils ont été forcés par la Russie, par le président Poutine, qui a lancé cette invasion il y a bientôt 4 ans. Et donc, c'est toute une société qui a été forcée de s'habituer à ça. Et ça, c'est une des pires choses qu'on puisse subir ou qu'on puisse infliger à une société, c'est de forcer à s'habituer à ça. Parce que c'est une des pires choses qui puisse exister, c'est de devoir vivre dans un pays en guerre pendant bientôt 4 ans.
Alors, tu le dis, la guerre révèle les pires côtés de l'être humain, mais aussi les plus beaux. Tu veux dire quoi par là ?
Les pires côtés, quand on parle la corruption, c'est très actuel. Donc, il y a eu le président Zelensky, plein de personnalités politiques très importantes, son bras droit, mais aussi deux ministres ont été impactés ou impliqués directement dans une affaire de corruption.
Ouais.
Et là où ça fait mal, c'est que c'est une affaire de corruption qui touche directement le secteur énergétique. Et quand on sait qu'à Kiev, pour l'instant, la capitale, jusqu'à 18 heures par jour, il n'y a pas de courant, alors qu'on est en plein hiver qui va bientôt commencer, où il fait noir à 15h, 16h.
Des hivers un peu plus rudes que ceux qu'on connaît chez nous.
Exactement.
En plus,
hein. Et alors, la population ukrainienne, comme je disais, très résiliente, a trouvé des solutions. Donc, ils ont tous leurs propres générateurs pour faire fonctionner leur commerce, etc. Mais quand on entend que le ministre et que des gens qui sont directement des très hauts placés sont impactés dans une affaire de corruption spécialement dans ce secteur, ça fait quand même mal à la population ukrainienne, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir zéro scrupule pour faire ça en temps de guerre. Donc les pires choses et puis les meilleures choses, les situations héroïques qu'on voit, et j'emploie ce terme héroïque vraiment de manière consciente, sur la ligne de front, mais aussi les civils qui s'entraident, ça c'est des choses qu'on voit au quotidien, heureusement, et qui sont très inspirantes, mais qui sont qu'on voit dans chaque guerre, on voit des choses du quotidien qui sont au final héroïques. Je me rappelle d'un ami, enfin c'est devenu un ami, un habitant de Kharkiv. Au début de la guerre, il était assez sceptique du gouvernement ukrainien. je vais pas dire pro-russe, mais il était voilà, un petit peu complotiste, on pourrait dire ici. Quand la guerre a commencé, il a totalement changé et il s'est dit, ce qui se passe ici, c'est pas ok, les Russes qui sont nos voisins nous attaquent, il y a des bombardements dans ma rue, dans mon quartier. Et un homme qui était très sceptique de plein de choses, et sceptique du gouvernement ukrainien aussi, a même lui-même, donc il a pris son vieux véhicule, il a libéré des dizaines d'habitants de leur habitation en feu. Donc il a sauvé littéralement plein de monde et il a été rejoindre l'armée juste après. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours dans l'armée ukrainienne. Et donc, c'est pour dire aussi à quel point des événements comme ça peuvent vraiment avoir un impact et une tournure inattendue sur les vies d'individus qu'on n'aurait pas spécialement. Et ça, j'en parle aussi parce que dans des cas, pas spécialement une guerre, mais quand il y a des choses, quand on regardez ce qu'on a vécu en Belgique, les premiers mois du Covid en Belgique, c'est la même chose. Il y a eu un élan de solidarité qui était immense. Les gens se mettaient aux fenêtres pour applaudir. Il y a eu des gens qui faisaient des rondes pour apporter des courses, etc. chez les personnes qui n'arrivaient pas trop à se déplacer. Et donc, dès qu'il y a une crise, on voit vraiment que dans une société, il y a de très beaux éléments qui apparaissent et qui font surface. Et ça, c'est les choses qui me font continuer à aller en Ukraine. C'est qu'on voit au quotidien des choses qui sont très belles aussi, malgré la guerre.
Et justement, pour toi, qu'est-ce qui a changé dans la société, même ici en Belgique, par exemple, depuis le début de ce conflit ?
En Belgique, pas assez, je trouve. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, un peu en hommage aux Ukrainiens, d'une part, mais aussi pour un peu rappeler aux lecteurs qui s'intéressent et qui veulent voir ce que la guerre fait à des gens comme vous et moi. Ce livre, c'est vraiment pour ces gens-là également, parce que on n'arrive pas spécialement à s'imaginer. Ok, l'Ukraine, c'est en Europe, c'est proche, mais en même temps, c'est très loin aussi. C'est une culture qui est différente, un alphabet qui est différent, un pays, tout. Donc tout, il y a plein de choses qui sont assez différentes en Ukraine, et donc on n'arrive pas spécialement à s'identifier. Et par ce livre, j'ai essayé de raconter des histoires humaines du quotidien, de tous les jours, pour que les gens ici puissent avoir une petite idée de ce que ça fait.
Ouais.
Imaginons, demain on est attaqué, on n'aura pas des tanks russes qui vont venir à Bruxelles, mais une guerre au 21e siècle, ça peut prendre différentes formes. On n'est pas à l'abri d'une coupure générale d'électricité. Qu'est-ce que les Ukrainiens font en sachant qu'ils passent 18 heures par jour sans électricité? Qu'est-ce qu'eux font? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre des Ukrainiens qui vivent en guerre depuis 4 ans? Et c'est plutôt pour ça aussi une piqûre de rappel pour montrer qu'une société résiliente, une société robuste, c'est quelque chose qui peut nous servir à plein d'aspects de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas forcément parce que demain on peut avoir une guerre, mais c'est parce qu'on peut avoir une attaque informatique qui met des systèmes de nos hôpitaux à plat, qui met notre système de transport.
C'est déjà arrivé d'ailleurs.
Voilà, c'est déjà arrivé. Et donc ça peut prendre différentes formes. Et je pense que c'est intéressant de regarder, qu'est-ce que les Ukrainiens font et qu'est-ce que nous, on peut apprendre de ça. Et donc les gens qui sont intéressés par cet aspect-là, je les invite aussi à lire ce livre parce qu'on en parle vraiment de manière très, très accessible avec des rencontres de tous les jours.
Alors, le traitement de cette guerre dans les médias, il a beaucoup évolué depuis le début du conflit. On est passé des chaînes d'infos qui étaient en direct 24 heures sur 24 à des périodes durant lesquelles on ne parlait limite plus de cette guerre, comme si elle n'existait plus finalement. Aujourd'hui, on commence un peu à en reparler. Qu'est-ce que tu penses, toi, du traitement médiatique de la guerre en Ukraine ?
Alors, il ne faut pas être naïf et il faut juste un peu savoir comment les médias fonctionnent. Et souvent, les médias traitent une guerre ou une autre d'une manière aussi... Ça fluctue. Aujourd'hui, c'est ça qui est populaire. Demain, ce sera autre chose.
Ouais.
Et avec l'Ukraine, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, au début de la guerre, forcément, tout le monde en parlait. Et puis, ça a été assez constant jusqu'au moment où il y a eu la guerre, aux attentats entre Israël et Gaza, ça devenait vraiment important. Alors, tous les médias se sont tournés vers le Moyen-Orient. Ce qui est normal, une fois qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est totalement normal. Mais là où moi j'étais un petit peu en colère, c'est qu'à ce moment-là, j'assistais à des... Pile le 7 octobre, j'assistais à plein de funérailles de civils qui avaient été bombardés, qui avaient été touchés, etc. Il y avait plein de victimes, et j'étais aux enterrements. Et là, les médias ont réagi d'une manière qui, pour moi, était un petit peu difficile à digérer. C'est qu'ils ont dit, bon Arnaud, aujourd'hui, il y a une nouvelle guerre, merci pour ton travail, mais pour les semaines à venir... on n'aura plus besoin de ton aide. Et ça, je comprends. Mais à partir du moment où tous les journalistes dans l'Est de l'Ukraine, tous mes collègues, tous les freelances, mais aussi toutes les grandes équipes, donc je pense à BBC et autres, tous ont quitté l'Ukraine pour aller au Moyen-Orient. Et alors là, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, parce que qui reste en Ukraine alors pour parler de la guerre qui continue à faire rage? Et alors pour moi, c'était devenu aussi un petit peu... je me suis posé la question, est-ce que moi aussi, il faut que j'aille au Liban ou en Israël? Et je me suis dit, bon, mais où est-ce que je suis une valeur ajoutée? Si je vais en Israël demain, est-ce que je serai une valeur ajoutée? Alors je me rappellerai toujours des dizaines et des dizaines de reporters qui étaient aux portes de Gaza, en train de filmer avec leur caméra, depuis Israël, donc il n'y avait même pas accès à Gaza. Et donc je me disais, bon, est-ce que c'est intéressant ou intelligent pour moi de quitter l'Ukraine, où j'étais à ce moment-là depuis 2 ans, où je connais le Donbass comme un poche, j'ai un réseau, voilà, je connais mon dossier. Si je quitte l'Ukraine pour aller en Israël, où je ne suis pas spécialement une valeur ajoutée parce que je n'ai pas de réseau, etc., est-ce que ce serait une bonne décision? Et éthiquement parlant, je pense que pour moi, j'étais plus une valeur ajoutée en Ukraine à ce moment-là, et je suis resté là. Et à un moment, j'étais pratiquement le seul reporter qui restait dans le Donbass. Et c'est là où je trouve ça un peu cynique que même les reporters passent d'un conflit à un autre, parce qu'un conflit vend mieux que l'autre. Et il y a une dimension éthique qui, pour moi, était assez, assez fine. Et voilà, c'était un choix conscient de rester en Ukraine. Et voilà, donc voilà, c'est des dynamiques médiatiques qu'il faut connaître, et à un moment il faut aussi choisir, voilà, est-ce que je veux suivre la dynamique médiatique, ou est-ce que je veux rester là où je suis une valeur ajoutée. Et donc voilà, c'est un petit peu ça la discussion. Et puis voilà, maintenant on voit que ça continue, hein, depuis le cessez-le-feu approximatif à Gaza, on en parle quasi plus.
Bien sûr, et on reparle beaucoup plus de l'Ukraine pour le moment.
Beaucoup plus de l'Ukraine. Il y a un autre génocide qui se passe maintenant à Darfour, au Soudan, on en parle pratiquement pas non plus. Donc voilà, c'est tous des aspects des médias.
Et aussi le côté proximité géographique, de se dire les conflits sont plus proches de chez nous, ça va peut-être plus intéresser les gens.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, je trouve que c'est important aussi pour les lecteurs, les auditeurs, etc., d'être conscient qu'à chaque fois qu'on parle d'un conflit ou d'un autre, il y a toujours des dynamiques qui jouent derrière. Et donc, à partir du moment où on en est conscient, on arrive à décerner un petit peu mieux cette dynamique-là, quoi.
Alors, on rappelle ton livre Invincible, qui est sorti aux éditions Kenes. À quel moment est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre?
Alors, bonne question. En fait, j'étais resté pendant très longtemps en Ukraine. J'ai vécu énormément de choses bouleversantes, dramatiques. Des collègues sont décédés, enfin, ont été tués. Des amis militaires, aussi des civils. Et donc, j'ai vécu aussi pas mal de choses sur le front, notamment avec la bataille de Bakhmout et d'autres batailles que j'ai suivies de très près. Et puis, j'étais en Belgique ou aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas que ça a commencé, en fait. J'étais invité pour en parler à la radio, et une maison d'édition aux Pays-Bas m'a envoyé un mail en disant « Mais écoute, Arnaud, tes histoires sont précieuses. Est-ce que tu voudrais en faire un livre ?»
Ouais.
Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ça. Et puis, donc, le livre est paru en néerlandais d'abord. Et je suis très content d'avoir pu travailler avec une équipe pour le faire paraître en français également, parce que ben voilà, c'est des histoires qui sont aussi longues, qui seraient oubliées. Par exemple, la bataille de Bakhmout, pendant 1 an et demi, on en parlait tous les jours. Aujourd'hui, plus personne sait ce que c'est. Et donc voilà, c'est aussi une manière pour immortaliser aussi un petit peu toutes ces batailles, etc., qui dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans seront oubliées. Et donc c'est réellement un hommage à la population ukrainienne, à mes amis qui sont plus là aujourd'hui, et aussi une manière de ancrer toutes ces histoires-là aussi dans le temps, à travers un bouquin. Et je trouve que je suis content que ce soit publié.
C'est important. On rappelle donc ton livre Invincible, sorti aux éditions Kenes, un livre donc de Arnaud Dedecker. Alors Arnaud, là en ce moment tu es en Belgique, c'est quoi tes projets pour la suite? Retourner en Ukraine?
Alors là je vais prendre un peu de temps pour moi, voir ma famille, etc., pour Noël, et puis en fonction de l'actualité, je pense que je retournerai en Ukraine rapidement, parce que malheureusement, malgré ce qu'on a pu penser il y a une semaine, je pense que la paix n'est pas encore très très proche, au contraire. Donc je pense que ça reste important de suivre ça de près.
Merci beaucoup Arnaud.
Merci à vous.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.